Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans Endurance 30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain. Le mieux pour t'introduire, bah, c'est que tu le fasses toi-même. Sylvain, je te laisse te présenter.
Eh ben, bonjour. Sylvain Fréville. Alors aujourd'hui, je suis responsable de formation à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de natation. Mm-hmm. Et puis avant, bah, j'ai entraîné plus de 20 ans hein, pour l'espoir. Alors après, j'ai toujours été passionné par l'entraînement dans différents domaines. Donc, je suis aussi préparateur physique. J'interviens dans différents domaines d'entraînement, de suivi, d'analyse de la fatigue et de ces choses-là. Et dans mon cursus, bah, j'ai vraiment quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. C'est vraiment cette formation sur la variabilité cardiaque que j'ai fait une dizaine d'années et qui m'a vraiment transformé. Après, je suis bon quelqu'un qui fait du sport dans différents domaines, alors que ce soit la course à pied, le vélo. Pas la natation en tout cas, parce que je pense que j'ai passé beaucoup de temps et peut-être trop de temps sur les bords du bassin qui fait que je ne fais plus. Mais j'aime tout en fait, j'aime tout sport, toute discipline, tout domaine d'entraînement. Et voilà, je suis plutôt passionné par ça, donc c'est plutôt ce qui m'intéresse.
L'odeur du chlore ne te manque pas?
Non, ah non, ça non. Non, autant j'aime beaucoup encadrer, j'aime beaucoup essayer d'amener des choses. Sur le plan physique, physiologique ou même sur le plan technique, hein. Mais pratiquer dans l'eau, non, pas du tout. Le seul moment où je vais dans l'eau, c'est quand je vais faire un peu de surf sur la côte atlantique.
Ok, ok. Et puis justement, sur la variabilité de fréquence cardiaque, c'est un de tes gros domaines de compétences, hein, parmi d'autres, parce que, entre parenthèses, je crois savoir que sur le kettlebell, tu as un petit pied chez Strong First aussi, donc ça fait partie, oui, ça fait partie du truc. Et justement, ton expertise sur la VFC, ça t'a aussi amené à bosser avec d'autres sports, et notamment le hand récemment, par exemple.
Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai fait la formation qu'il y avait à l'INSEP. Alors je ne sais pas si elle y est encore un peu. Le responsable de ça, c'était Laurent Schmitt, hein, je pense que tu connais. Et bien, je lui rends hommage par rapport à l'expertise parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté énormément. Et en fait, moi, je me suis aperçu pendant cette formation qu'il y a un certain nombre de choses que je faisais qui étaient en fait complètement en décalage avec la réalité et qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir au fait que bah, y a des choses simples qui marchent très bien et que je n'utilisais pas ou que j'utilisais mal, et je cherchais la complexité là où il n'y avait pas forcément besoin d'en avoir. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a mis une grosse claque, et ça m'a vraiment fait réfléchir, et ça m'a vraiment fait évoluer par rapport à ça. Alors, ce que je te disais, ce que tu disais tout à l'heure, et ce que je disais dans la présentation, en fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les disciplines, et moi, je crois beaucoup à la transversalité de l'ensemble des disciplines, hein, qu'elles soient force, qu'elle soit sport co, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit dans différents domaines. Et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent ou qui disent « Ah, mais non, mais dans mon sport, c'est comme ça, il faut faire comme ça. » Et ça, moi, j'ai du mal à le concevoir. Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plein de façons de faire. À partir du moment où on est cohérent avec ce qu'on fait et ce qu'on met en place, je pense que faut rester logique, faut rester simple. Il y a des choses simples qui marchent, il n'y a pas besoin d'aller chercher le dernier truc à la mode, surtout si on ne fait pas la base au départ. Alors là, moi je suis en charge jusqu'au Jeux de Paris de l'analyse de la variabilité cardiaque sur l'équipe de France de handball féminine. Alors c'est intéressant parce que c'est les sports que je ne connaissais pas trop, et ce qui était intéressant, c'est d'échanger beaucoup avec le staff. Comment amener ça, comment expliquer ça aux filles, comment optimiser cette façon de faire. Ça se passe plutôt bien, le staff est plutôt ouvert par rapport à ça. Mais après, faut pas non plus, faut pas non plus dire, bah ouais, il y a la variabilité, donc c'est pour ça qu'ils ont les résultats. Non, non. Je veux dire, il y a déjà une grosse équipe, un gros staff qui fonctionne très bien. Et comme dirait Pierre Terzi, que je salue, qui est le préparateur physique, voilà, moi, c'est des gains marginaux. C'est-à-dire que l'idée, si déjà on avait les mêmes résultats qu'ils avaient avant, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient déjà championnes du monde avant et qu'elles sont aussi championnes olympiques. Donc, bon, elles sont redevenues championnes du monde. Donc, ça, hop, ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'elles redeviennent championnes olympiques. Ce n'est pas non plus facile. Donc, il ne faut pas s'emballer. Mais effectivement, il y a un truc que j'ai appris dans l'entraînement, c'est que si tu reproduis à l'exactitude ce que tu fais déjà, bon, il y a de grandes chances que ça ne marche pas, en fait. Et donc, il faut forcément amener d'autres choses, d'autres modalités, que ce soit d'entraînement ou d'autres process de récupération ou d'autres gammes qui pourraient permettre d'évoluer.
Ouais, comme dirait ce bon Albert Einstein, la folie, c'est d'attendre un résultat différent en faisant la même chose.
Et oui, exactement. Exactement.
Ouais, on va revenir.
Revenir par rapport à ça, je te coupe. Mais pour revenir par rapport à ça, et c'est souvent des fois ce qui dessert un petit peu les entraîneurs, c'est que dès que ça a bien marché avec un système, eh ben, je garde le même système, je refais la même chose, et après, c'est la catastrophe. Mais d'un autre côté, ben, quand on change, on prend aussi le risque que ça ne marche pas. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que si on ne change pas, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Ça, c'est clair. Par contre, oui, c'est prendre des risques, hein, s'entraîner et essayer d'autres choses. Mais s'il n'y a que comme ça, hein, si on fait comme les autres, au mieux, on est aussi bon que les autres. Si on veut être meilleur que les autres, il va falloir forcément faire des choses que les autres ne font pas. C'est plutôt ma façon de voir les choses et je suis plutôt en adéquation avec ça.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand ça marche, il n'y a pas forcément toujours lieu de changer. Par contre, quand on stagne ou quelque chose comme ça, ou quand on est dans le dur, souvent, on va avoir tendance à se raccrocher en disant « mais il y a 10 ans, on a fait champion olympique en faisant ça ». J'ai connu ça. Et du coup, ce n'est pas forcément parce que la même chose que le contexte évolue et quelque chose qui évolue fortement. Je pense que le niveau dans toutes les disciplines, avec la professionnalisation du sport de plus en plus, il augmente aussi. Donc, ce qui était valable il y a 10 ans est moins valable maintenant. Pas sur les fondamentaux, hein, on est bien d'accord, mais sur certains, sur des volumes d'entraînement, sur des choses comme ça. Et on y reviendra, mais avant, parce que déjà, j'ai déjà un épisode où j'ai raté la question phare, c'est ta définition de l'endurance en quelques mots, pour commencer. Bon, on a déjà commencé.
Moi, ma définition, c'est à un niveau d'intensité fixé, alors que ce soit un poids ou que ce soit une vitesse, c'est la capacité à durer dans le temps, le plus longtemps possible en fonction de son objectif, en fait.
Ok, ça me parle. Et sur la VFC, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'épisode, on va le tourner. J'ai pas envie de faire un cours théorique sur la variabilité de fréquence cardiaque parce que j'aime bien le terrain, j'aime bien le concret, et surtout, tu as une expertise en tant qu'entraîneur et préparateur physique aussi, une évolution dans ton métier à ça. Et je pense qu'on va essayer de discuter autour, déjà de définir un petit peu ce que c'est, mais autour aussi de ce que ça t'a amené à l'entraînement, ce que ça t'a fait évoluer, les limites, etc., etc. Et je te rejoins quand même sur un truc, c'est que la transversalité entre les sports, elle est indispensable. Et par exemple, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, j'apprends beaucoup plus en échangeant avec des coachs ou des pratiquants d'autres disciplines qu'avec des pratiquants de l'endurance, par exemple, pour une raison simple. Je dis pas qu'on a fait le tour et qu'on sait tout, hein, loin de là, mais sauf que dans tes disciplines, c'est quand même les systèmes, tu le connais, tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour marcher, et je trouve que d'avoir d'autres modes de pensée en disant putain, alors attends, mais eux ils font comme ça parce qu'ils sont dans ce cas-là, ah bah tiens, ça incite à réflexion. Et je trouve que la transversalité, elle se trouve aussi dans la pédagogie et la manière de construire une stratégie.
Ouais, moi, c'est un petit peu ce que j'aime dans le métier que je fais aujourd'hui, hein, sur la formation. C'est pas le fait de venir et dire c'est comme ça qu'il faut faire, parce que moi, c'est pas du tout ma façon de faire. C'est plutôt les retours des stagiaires. Donc, c'est plutôt ça. Moi, quand j'interviens, j'essaye plutôt de leur dire que quand j'aurai fini, il faut que j'ai appris quelque chose. Et c'est plutôt ça. Et je pense que de par leurs remarques ou de par leur sport, parce que j'interviens aussi dans des domaines sportifs où je ne connais pas forcément, mais leur interrogation, moi, des fois, me fait réfléchir en me disant, tiens, ça, dans ma pratique ou sur ce paramètre-là, il faudrait que j'y réfléchisse quand même, parce qu'effectivement, peut-être que on peut développer un peu plus ici, là, ou voilà. Donc, Moi, ça me paraît important. Ça me paraît important de vraiment d'ouvrir. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je lis beaucoup, plein de disciplines. Et après, j'ai la chance aussi d'intervenir dans plein de domaines différents. Et c'est cet échange qui est super important et qui fait évoluer. Il y a pas de. En fait, je m'aperçois. Alors, je commence à faire partie des vieux un peu, hein. Mais je m'aperçois que bah, plus j'avance, plus j'ai des questions. Et à chaque fois que je réponds à une question, j'en ai 10 nouvelles qui arrivent. Donc, en fait, plus j'avance, et moins je sais. Par contre, ce que je sais, c'est plus j'avance et plus le sport, il est systémique. Donc, ça fait vraiment un ensemble de paramètres autour et que. Quelle est réellement notre part de responsabilité sur la performance de l'athlète? Là, aujourd'hui, je suis pas persuadé que vraiment ce qu'on fait à l'entraînement change radicalement tout de la performance. C'est-à-dire que dans mes quelques lectures, notamment sur la charge d'entraînement, sur ces choses-là, on s'aperçoit quand même que l'environnement impacte plus que l'entraînement lui-même. Donc, si vous avez quelqu'un qui s'entraîne parfaitement avec un entraîneur qui est au tip-top et tout, mais qui a un environnement autour de lui qui est catastrophique, vous aurez beau être bon, que ce soit l'athlète ou le coach, bah, ça ne se passera pas bien, en fait. Hein. Et puis, bah, des fois, la super séance parfaite, avec le super plan et tout, bah, des fois, il n'est pas très bien fait. Par contre, s'il y a un athlète qui mange bien, qui dort bien, qui s'organise bien, qui a un environnement positif autour de lui, ben, il va avoir peut-être des résultats qui seront nettement meilleurs que celui qui fait les choses parfaitement. Donc, je pense qu'il faut être très humble par rapport à ça. C'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis aperçu, hein, c'est que vraiment notre part, je ne vais pas dire la part de responsabilité, mais notre part réelle dans la perf, ben, elle n'est pas vraiment, enfin moi je la trouve pas vraiment hyper importante. Enfin, je ne vais pas dire important, mais comment dire, hyper décisif en fait. Et c'est ça qui apparaît de plus en plus en fait. Donc après, quel est notre rôle? Quel est notre rôle à nous dans l'amélioration de l'environnement autour? C'est ça qui peut-être qu'il faut se poser comme question.
Mais je te rejoins totalement parce que quand tu coaches un peu bah, sur le terrain au quotidien chez des sportifs de haut niveau, tu te rends bien compte que quand tu es un peu plus jeune, bah, quand il y a des résultats, tu es content, tu dis oh, j'ai bien bossé et tout. Puis quand tu prends du recul, tu te dis mais ouais, mais là, genre d'exemple, nous des mondiaux juniors, on en avait quatre à l'époque. Il y en a deux qui ont fait des super perfs, il y en a qui fait deux médailles, donc tu dis oh, j'ai un génie. Il y en a un qui avait un niveau de perf habituel par rapport à ce qu'il faisait dans la saison. Donc, ce qu'on avait fait comme prépa pour les mondiaux juniors, c'était plutôt neutre hein, pour lui, par exemple. Et il y en a un, il est passé à côté. Et peut-être que tu peux pas dire que c'est de sa faute s'il est passé à côté et que c'est grâce à toi si les deux autres ont vraiment réussi. Il faut quand même être cohérent par rapport à tout ça. Et je pense que c'est en vrai, quand tu entraînes sur le terrain, sur du haut niveau, ou en tout cas sur des équipes de France junior, c'est de l'accession au niveau, hein, c'est encore pas du vrai haut niveau. Tu dois avoir. T'es pas un meilleur entraîneur que quelqu'un qui bosse à distance ou en salle de fitness et tout. Par contre, tu gagnes beaucoup de temps parce que tu as des gens tous les jours sur le terrain et tu as le temps de faire des conneries et tu as plus le temps de les rattraper aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te rends compte que finalement, quand tu es vraiment au quotidien sur le terrain, les petites conneries que tu peux faire, mais elles n'ont pas tant d'impact que ça. Et les séances parfaites que tu peux mettre en place, elles n'ont pas tant d'impact que ça.
Non, c'est clair.
Ouais.
Tout à fait. Ouais, non, mais c'est complètement ça. Après, des fois, on a la tête dans le guidon. Enfin, les entraîneurs, ils ont la tête dans le guidon, ils sont à fond dans le truc et tout. Et on ne prend pas assez le temps de prendre du recul, de les observer, de regarder leur attitude, de discuter avec eux. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on apprend beaucoup. Parce que tu as beau préparer la super séance qui va bien, s'il arrive et que ça ne va pas, bah, tu peux la mettre à la poubelle, ta séance. Hein. Donc, et puis, elle ne servira à rien. Tu auras beau lui imposer ou quoi, bah, ça ne se passera pas correctement, en fait. Ça ne se passera pas comme toi, tu as décidé que ça se passe.
Justement, on va faire un petit peu de lien avec l'entraînement et parler de variabilité de fréquence cardiaque. Et tu vois, tu parlais d'effet de mode. La VFC, ça fait quand même un. C'est très récent dans l'entraînement, mais ça n'a pas 2 ans non plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'en servent. Les JO d'hiver Vancouver, c'était 2010. C'est là que ça commençait déjà. Donc, ça a déjà 15 ans. Ça venait un peu avant aussi de la médecine. Mais c'était plutôt sur le haut niveau où il y avait de l'expérimentation qui était faite. Et depuis 1 ou 2 ans, il y a un gros effet de mode parce qu'il y a des fabricants de montres, des fabricants de trucs qui s'en sont emparés. Je ne vais pas donner mon avis, les gens le connaissent, je vais plutôt te demander un état des lieux un petit peu pragmatique de ce que c'est la VFC, de comment ça se mesure et de en quoi ça peut servir à adapter l'entraînement.
Oui, alors en fait, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quoi? Bah, c'est un outil qui permet de mesurer l'activité du système nerveux autonome qui, en fait, il régule l'intégralité du fonctionnement du corps et il se fait de façon automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de contrôle dessus. On a quelques contrôles sur certaines modalités, mais on n'a pas de contrôle dessus. Après, aujourd'hui, ce que la science nous dit, et là, ils sont plutôt OK par rapport à ça, c'est le fait que pour avoir une mesure fiable, il faut déjà une ceinture cardiaque, c'est-à-dire qu'il faut un enregistrement électrique. Donc ça, parce que tout ce qui est capteur optique avec photoplétismographie, bah, c'est pas franchement hyper précis. Donc là, aujourd'hui, déjà, il faut une ceinture. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une montre, une bague ou tout objet comme ça, ils n'ont pas forcément des mesures de qualité. Ça, c'est déjà la première chose. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toute une analyse à faire derrière qui est complexe, où il faut un petit peu d'expérience, il faut un petit peu de connaissances. Et puis, ça demande un certain nombre de données. Pour avoir l'intégralité des données, il faut minimum 4 minutes sur une position couchée, 4 minutes sur une position debout. Sachant qu'on prend 5 minutes couchée, 5 minutes debout, pourquoi ? Parce que le but, c'est juste de stabiliser la fréquence cardiaque pour éviter d'avoir des variations et puis des fois des artefacts qui peuvent arriver. Donc, en gros, c'est 4 minutes plus 4 minutes, couché debout. Donc, en gros, sur la totalité, tu fais une minute de stabilisation, 4 minutes de mesure. On passe debout, une minute de stabilisation, 4 minutes de mesure. Par rapport à ça, on détermine 5 niveaux de fatigue, 3 sur la position couchée, 2 sur la position debout. C'est-à-dire que si on prend les applications, les montres, tous les trucs comme ça qui font soit des mesures couchées, soit des mesures debout, bah déjà, ce n'est pas forcément bon parce qu'il faut comparer la position couchée à la position debout, hein, puisqu'il y en a une qui va plutôt être, sur la position couchée, va plutôt être l'analyse de l'état de récupération et la position debout qui est l'analyse de l'activation. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'énergie, on peut être très reposé et pas réussir à... Attends. Ah, on a été coupé là, je crois.
Ouais. Alors attends, il faudrait que je fasse le montage.
Vas-y, dis-moi.
Putain, on a combien de temps? On a 17 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil qui s'est connecté à mon.
Ouais, je pense à le couper. Tu disais, on peut avoir de l'énergie et pas arriver à.
Ouais, alors je vais
recommencer. Ouais, vas-y.
Ouais, alors on peut avoir beaucoup d'énergie sur la position couchée qui nous dit que bah, on a bien récupéré et tout, et on peut ne pas avoir d'activation dans l'effort. Alors, comment on le retrouve comme ça dans la sensation, bah, c'est souvent quand tu pars faire une séance, tu pars, tu ne te sens pas bien, tu te sens lourd, ça ne répond pas, tu ne sais pas trop pourquoi, parce que pourtant tu as bien dormi, tu te sens bien. Et puis d'un seul coup, au milieu de ta séance, bah, ça se met à répondre. Tu te sens super bien et tout, alors que 2 minutes avant, ça n'allait pas du tout. Et donc, c'est ça aussi l'activation, bah, ce qu'on appelle le système orthosympathique, hein, puisqu'il y a deux branches, une branche qui est plutôt calmante et une branche qui est plutôt activatrice. Hein. La branche calmante, c'est parasympathique et la branche activatrice, c'est plutôt orthosympathique. Et donc, on peut avoir des choses comme ça. Donc, tu peux avoir super bien récupéré, sauf que bah, si ça ne répond pas, si ton corps ne s'active pas, et ben, donc des fois, ça peut être intéressant de savoir aussi comment situe la personne par rapport à ça. Après, déjà, si tu fais, il faut 10 minutes de test, donc c'est une certaine contrainte, il faut une position couchée debout, et effectivement, quand tu prends les applis, ben, tu n'as pas forcément ça. Alors déjà, tu enlèves tout ce qui est capteur optique qui fait pas forcément une mesure très fiable. Tu enlèves tout ce qui fait 1 minute ou 2 minutes ou que le coucher ou que le debout. Ouais. Et en fait, j'ai envie de te dire, voilà. Alors après, pour en avoir discuté un petit peu avec plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, c'est bien les outils tout automatiques, mais ça ne remplacera jamais l'analyse de la personne, en fait. Et ça ne remplacera non plus, à mon avis, jamais l'analyse de l'athlète. C'est-à-dire que je pense que c'est un bon compromis, c'est une bonne source d'analyse, une bonne source peut-être d'échange, parce que je pense que cet outil-là, il est intéressant aussi dans la démarche d'apprentissage de l'athlète. Donc peut-être d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à comprendre que ben, peut-être que sur certains week-ends, on récupère et d'autres, on ne récupère pas. Parce qu'on a eu, moi, je me suis aperçu que certains athlètes qui ne faisaient rien le week-end, ben, leur test était pire le lundi qu'à la fin d'une semaine d'entraînement. Et pour avoir discuté un petit peu avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ces gens-là, ben, quand ils ne faisaient rien, ils ne récupéraient pas et qu'il leur fallait un minimum d'activation pour récupérer. Alors ça, c'est bien pour le savoir parce qu'à partir du moment où ils ont bien compris ça et qu'on s'est servi des mesures pour leur faire voir, ben, ils ont compris qu'eux, ils ne pouvaient pas rien faire pour récupérer, qu'ils étaient obligés de se mettre un minimum d'activation dans le week-end. Donc c'est un ensemble de choses. Mais alors moi, je n'utilise jamais ça tout seul, en fait. J'utilise jamais la variabilité seule. Je le couple toujours avec des analyses subjectives. Alors, tu peux le coupler avec le RPE, mais moi, je n'utilise pas le RPE, j'utilise l'index de Hopper, qui me permet d'avoir quatre domaines et qui me permet surtout d'orienter un petit peu les rémédiations s'il y a besoin de faire de rémédiation. C'est-à-dire que ça aussi, en utilisant cet outil-là, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, un paramètre pour moi qui est essentiel dans la récupération, c'est le sommeil. Et là, quelqu'un qui ne dort pas ou qui dort mal, il ne récupère pas. Et donc, tu as beau faire ce que tu veux, comme technique de bain chaud, de bain froid, d'électro, de ce que tu veux, tant qu'il n'y a pas de sommeil de qualité, il n'y a pas de récup. Et voilà, donc ce n'est pas la peine de passer à autre chose. Moi, quand j'ai un athlète qui me dit qu'il dort mal, il faut trouver des solutions pour qu'il dorme mieux, qu'il dorme bien, et c'est là-dessus qu'on se concentre. Mais le reste, donc en fait, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire la base, le sommeil, priorité, d'accord, et puis après, bah, tu as l'hydratation, l'alimentation. Voilà, puis on pourrait même pratiquement parler, alors souvent on parle de méditation, mais j'irais peut-être un peu plus loin, mais la respiration. Tu vois. La respiration, c'est quelque chose, à mon avis, essentiel. Les gens ne savent pas respirer correctement. Alors, en natation, nous, on est forcément contraints de respirer correctement, sinon ça a un impact très fort sur la performance. Mais je pense que dans toutes les disciplines, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements dans la respiration parce que les gens, ils sont hyper stressés, parce qu'ils ne respirent pas bien, parce qu'ils suroxygènent. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Alors, l'avantage de la respiration, c'est qu'il y a un lien direct par le nerf vague sur le système nerveux autonome et notamment sur le système parasympathique. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de jouer avec cet aspect-là. Mais là, on parle de respiration, on pourrait parler d'alimentation, on pourrait parler de sommeil, on pourrait parler d'hydratation, on pourrait parler de bain chaud, de bain froid, on pourrait parler d'acupuncture, on pourrait parler d'ostéopathie, on pourrait parler de réflexologie. Enfin, il y a énormément de domaines qui fait que aujourd'hui, ben, on a plein de domaines qui sembleraient activer certains paramètres, sauf que ben, en fait, chaque athlète est singulier. Et moi, j'ai vu des athlètes aller à l'opposé de ce qui était préconisé par la science. Donc, bah, à un moment donné, la science, c'est une chose, elle doit t'aider, elle doit t'interroger, elle doit te faire évoluer. Mais un athlète, c'est un athlète. Et il y en a qui ne fonctionnent pas comme les autres. Alors, quand on dit, par exemple, que bah, le bain froid, et c'est un activateur parasympathique, bah, oui, c'est prouvé par la science, oui. Sauf que chez certains, ça ne marche pas. Et ça fait l'effet inverse. Donc, l'avantage, c'est quand on le sait, bah, on n'utilise pas ça, on utilise autre chose. Voilà, donc il ne faut pas non plus… à un moment donné, il faut rester à l'écoute. Et c'est pour ça que je disais, prendre du temps de recul pour discuter, pour observer, pour échanger, pour voir qu'il y a un truc qui ne va pas, pour savoir si ce qu'on a fait, ça a l'air de marcher ou pas. Nous, on ne ressentira jamais ce qu'un athlète ressent. Et on aura beau faire ce qu'on veut, ça n'arrivera jamais. Et donc, je pense que c'est important d'en parler avec lui. Alors, ça peut être par l'intermédiaire de questionnaires, mais le questionnaire est un déclencheur d'une discussion derrière. Et voilà. Et la variabilité cardiaque, bah, c'est un outil. Ça peut être un outil éducatif aussi pour les athlètes, peut-être pour les ados. Hein, discuter avec des collègues qui me disaient que ça peut être un outil hyper intéressant pour faire passer l'adolescence à des athlètes, parce que quand ils sont adolescents, ils grandissent vite, ils deviennent plus ou moins forts, les tendons s'attirent un peu, ils deviennent un peu plus raides. Souvent, ils sont beaucoup plus fatigués sur certaines périodes et ça peut être intéressant de les aider à passer ce cap-là. Voilà. J'ai bien dit les aider. Nous, on ne fait pas tout seul. C'est quand même l'athlète qui est au centre du système. Mais voilà, j'espère avoir pas été trop
compliqué. Non, c'était très bien. Et j'ai quelques points où je vais rebondir. Et là, on est dans ce que tu dis, on est beaucoup aussi dans un contexte de sport de haut niveau, tu vois, avec des athlètes aussi pros, et c'est très bien. Et tu vois, par exemple, typiquement sur la récupération chez des sportifs amateurs, tout le monde croit que je suis un bourrin parce que je dis entraînez-vous, dormez et puis ça ira. Mais il y a aussi autre chose quand même qui est important à prendre en compte, c'est que souvent les sportifs amateurs, moi aussi, en tant que sportif, je suis amateur, le sommeil n'est souvent pas toujours très bon parce que le boulot, des fois, il est stressant, il y a les gamins, il y a les choses comme ça. Et d'aller chercher, pour moi, des techniques de récupération, ça rajoute une charge mentale pour pas grand-chose, en fait, finalement. Et moi, le seul truc que je conseille vraiment aux sportifs amateurs, s'ils aiment ça, c'est les massages. D'aller chez quelqu'un, ouais. Parce que finalement, c'est un moment où tu te poses. C'est prouvé ou pas prouvé par la science, je m'en fous, parce que le gars, ça lui fait du bien. Si ça lui fait du bien, ça va forcément un peu activer son para d'un côté. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Ou d'aller au cinéma.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'était ce que tu dis là, d'aller au cinéma. Par exemple, ceux qu'on a vus qui récupéraient pas le week-end et qui faisaient rien, c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, va au cinéma, va te promener, va voir ta copine ou ton copain, déplace-toi, bouge, va te promener. Enfin, voilà. Et effectivement, on s'est aperçu qu'ils récupéraient. Après, je suis d'accord avec toi, le but, c'est pas de leur rajouter une contrainte, mais c'est de remettre les bases. Le village au centre, tu vois, c'est à un moment donné, la récup, c'est comprendre que la récup, c'est le sommeil. Et moi, je garde une image et une phrase qui dit que, en fait, l'entraînement fait régresser, c'est la récupération qui fait progresser. Et
c'est joli.
Les entraîneurs, c'est tous des champions du monde pour en mettre plein la gueule aux athlètes. Ah, ça, ils sont tous très forts. Par contre, trouver les bons systèmes de récupération pour optimiser l'entraînement, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu vois, moi, je suis venu à la variabilité par rapport à ça. Parce que je m'apercevais qu'en fait, par représentation, moi, ce que je pensais que l'athlète avait récupéré, en fait, il n'avait pas récupéré ou pas comme je le voulais. Et en fait, j'avais aucun outil, juste son ressenti à lui, qui est intéressant quand même. Est-ce que moi, j'avais l'impression, qu'est-ce que mes chronos disaient, qu'est-ce que la technique disait? J'avais pas ça. Et donc, la variabilité m'a aidé à comprendre des choses. Après, la formation m'a aidé aussi à comprendre des choses. Mais voilà, et je pense qu'il y a des choses simples, en fait. C'est tu manges bien, tu essaies de bien dormir, tu peux aller te balader le soir. Je veux dire, une petite balade avec ton chien le soir, où tu respires normalement, tranquille, c'est de la basse intensité, c'est une activation du système parasympathique. Et les athlètes, tu vois, des fois, tu leur demandes ça au lieu de leur faire de la cryo qui coûte un certain prix ou des choses comme ça. Déjà qu'ils aillent se balader. Ça se passe bien. Après, pour reprendre ce que tu disais sur le massage, alors le massage, il y a plusieurs techniques. Ça, c'est plutôt les kinés ou les masseurs qui connaissent ça mieux que moi, mais il y a des techniques d'activation et des techniques de récup. Mais aujourd'hui, sur l'équipe de France de handball, c'est presque 100% des filles qui, quand elles se font masser, on a une belle activation parasympathique. Donc là-dessus, c'est clair.
Effectivement.
Mais je pense, il y a un truc, c'est à partir du moment où toi, ça te fait du bien, fais-le, en fait. Tu vois, c'est des fois, on dit par exemple, moi, je ne m'étire pas parce que la science, elle a dit que si je m'étire, je vais augmenter mes lésions musculaires. Ouais. Mais en fait, si tu le fais et que ça te fait du bien, fais-le, en fait. Tu vois, moi je ne vais pas reprendre que mon exemple. Après, je ne suis pas sportif de haut niveau, mais moi, je vais courir, je ne m'étire pas. C'est sûr et certain que j'ai mal au genou. Je m'étire, voilà, et ça me fait du bien et je n'ai pas mal au genou. Donc, voilà. Après, je ne vais pas aux Jeux Olympiques. Mais...
Je promets aux gens que ce n'est pas Sylvain qui a écrit mon bouquin, une partie de mon bouquin sur la récupération et sur les trucs comme ça. Parce que,
en plus, là-dessus, on va être clair, c'est-à-dire que je n'ai lu que la partie sur la variabilité cardiaque pour l'instant. Je l'ai acheté. Je vais bientôt commencer parce que j'ai presque fini celui que je suis en train de faire en ce moment. Mais je ne l'ai pas lu. Mais Voilà, c'est pour ça que ça me plaît quand on parle de choses simples, de base. Enfin, voilà.
Mais en plus de ça, tu vois, le massage, pour terminer la parenthèse dessus, c'est aussi un moment, tu peux chercher les actifs, enfin, tu peux chercher plein de trucs physio, mais c'est un moment où quand quelqu'un se fait masser, quand on se fait masser, on pense à rien, on décharge tout, on se remet à quelqu'un d'autre, et c'est pour ça aussi que ça aide à récupérer. Et il n'y a pas besoin de chercher plus loin, savoir si ça va. Bref, ça c'était la parenthèse. Et sur la VFC, j'ai deux, trois petits points quand même qui me viennent pour discuter avec toi. C'est un outil qui est super puissant, qui est quand même conditionné à deux choses. Pour moi, hein, en tout cas, si on veut bien l'utiliser, mais tu auras le droit de me corriger parce que tu es beaucoup plus expert que moi, mais du souvenir que j'en ai, moi je l'utilise plus maintenant. Pas parce que c'est pas bien, parce que dans le contexte, j'arrive pas. Je trouve que j'ai d'autres choses à utiliser avant, mais c'est un point de vue. Mais dans le contexte où j'étais avant, il faut déjà. Alors, ça reste quand même chronophage de prendre une dizaine de minutes pour le faire. Ça, c'est une première chose. Pour moi, il faut un rythme de vie qui est, si possible, relativement stable, déjà pour arriver à avoir quelque chose de longitudinal. Et il faut aussi une expertise de l'opérateur dans le traitement de données. Je sais pas si ça a changé. Mais je pense que j'ai perdu une partie de mes cheveux, essayer de corriger les artefacts, à essayer de regarder toutes ces choses-là. Et du coup, il faut, avec Cubio, j'ai quand même ce souvenir-là. Alors peut-être que ça a évolué, mais en tout cas, il faut quand même une expertise de l'opérateur. Et ça veut pas dire que l'outil est pas bon. Ça veut dire que c'est comme n'importe quel outil. Plus il est puissant et précis, plus tu peux pas le confier à quelqu'un qui sait pas s'en servir. Et ça, je pense que c'est important. Et une petite parenthèse aussi dessus, et je vais te poser une question un peu cash, tu vois, il y a un truc qu'on regardait quand même aussi sur la, quand on faisait les tests de HRV, c'était la fréquence cardiaque, couché et debout, parce que ça donnait aussi une autre indication. Et ma question est, un peu orientée sur mon avis, mais tu auras le droit d'avoir le même, si tu n'es pas capable d'utiliser la variabilité cardiaque correctement, donc sans utiliser un raccourci avec un bracelet qui te mesure mal, avec un capteur qui te prend 30 secondes et avec juste ce qui se passe couché, est-ce que finalement, si tu as besoin de données objectives, un bête test de Ruffier ou la fréquence cardiaque au repos n'est pas suffisante?
Alors, pour répondre à ta dernière question, je vais commencer par ça, puis je reparlerai aux autres, mais moi, je suis complètement OK avec ça. Tu vois, après, la majorité du temps, si effectivement, tu te lèves le matin et ta fréquence cardiaque au repos, elle descend par rapport au jour d'avant, c'est plutôt bon signe, d'accord? Si elle remonte, c'est parce que souvent tu es fatigué. Alors la raison après, elle peut être multifactorielle, mais je suis complètement d'accord. Enfin, à un moment donné, c'est pas la peine d'aller chercher des choses difficiles. Après, ça peut être aussi une séance d'intensité ou une série d'intensités. Tu prends tes pulsations cardiaques à la fin de la série, tu reprends tes pulsations cardiaques une minute ou deux minutes après et tu vois la descente de pulse. Plus tu descends vite, ouais, plus potentiellement tu as une activation de récupération qui est importante. Donc, après, c'est de savoir quel est l'écart en fonction de la personne, mais si tu le fais régulièrement, c'est des choses simples que tu peux utiliser et moi que je conseille aux gens d'utiliser. Tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, pour revenir sur les autres questions, sur 10 minutes, c'est contraignant. C'est 10 minutes. Alors, tu vas me dire, c'est 10 minutes de sommeil en moins. OK. Ça peut être aussi 10 minutes d'analyse. Et effectivement, je pense que de toute façon, plateforme, pas plateforme, ça ne remplacera jamais l'expertise de la personne qui va s'en occuper. Ça, de toute façon, nous, on a développé une plateforme, mais pas parce qu'on veut la faire devenir automatique. Et de toute façon, c'est quand même moi qui fais les analyses sur la plateforme. Mais il y a de plus en plus de plateformes, en plus des Whoop, des choses comme ça. Mais en fait, c'est juste pour que le fichier, on le prenne, on le mette dans la plateforme et tous les graphes, les analyses et tout se fasse avec les différents paramètres qui s'allument en rouge, en vert pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon et que ça nous donne déjà une indication. Mais avant tout ça, il faut déjà être capable de savoir et de voir comment est le graphe et comment il évolue. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si tu as un matériel qui n'est pas terrible, tu vas te retrouver avec des artefacts. Et alors après, le problème, c'est que corriger des artefacts, ça te demande des filtrations qui peuvent être importantes. À partir du moment où tu as des filtrations importantes, tu modifies ton signal. Et c'est souvent ce qu'il y a dans les différentes applications tout automatisées que tu trouves, c'est qu'en fait, la filtration est tellement énorme qu'en fait, ton signal, il est plus, il correspond plus à ce que tu as eu dans la réalité. En fait. Donc, effectivement, au départ, il faut une qualité de signal, donc du matériel qui soit qualitatif. Alors après, ça ne coûte pas très cher maintenant, ce matériel. Mais en tout cas, je pense que dans l'avenir, tu auras beau tout automatiser ce que tu veux, tu ne remplaceras pas la personne qui fera l'analyse, et je vais même aller plus loin, tu ne remplaceras pas l'expertise de la personne qui connaît plus ou moins certaines remédiations. Parce que devenir expert de la nutrition en jouant sur les neurotransmetteurs ou les hormones, devenir spécialiste du sommeil, devenir spécialiste de l'hydratation, devenir spécialiste des bains chauds, des bains froids, devenir ostéo, devenir kiné, bon, on n'arrivera jamais à devenir tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être une contrainte. Après, c'est pareil, normalement, quand tu fais les analyses, tu dois avoir un suivi longitudinal et donc tu dois avoir créé ce qu'on appelle un profil, une médiane, en gros, sur des tests non-fatigue. Donc, normalement, des tests où tu n'es pas fatigué, où tu es en état de forme, pour que tu puisses comparer par rapport à ce profil-là. Ça, c'est la réalité. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de bien. Sauf que moi, les gens, quand ils viennent me voir, souvent, bah, c'est parce que c'est la merde, en fait. C'est parce qu'il n'y a plus rien qui répond. Parce que l'entraînement, ils sont morts, parce qu'ils sont tout le temps malades, parce qu'ils sont tout le temps blessés. Et donc, par rapport à ça, bah, moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ces données-là. Je peux que essayer de voir ce que je propose si il semblerait qu'il y ait une amélioration ou pas. Et donc, vérifier que ben, certains process d'entraînement ou certains process de récupération sont positifs ou négatifs et d'avancer comme ça à tâtons pour améliorer les choses. D'accord ? Donc, encore une fois, je pense que c'est de l'expertise, c'est de l'habitude, c'est d'avoir énormément d'athlètes. Mais effectivement, moi, j'ai rarement les athlètes, ils viennent pas me voir quand tout va bien. Ils viennent me voir quand tout va pas bien, justement, où ils ont plus rien, ils peuvent plus rien faire, en fait. Et c'est là où le problème des applications ou des montres ou des bagues ou qui sont toutes automatisées, c'est que certains paramètres qu'ils utilisent, comme des raccourcis, notamment le RMSSD.
Ouais.
Pour pas le citer, hein. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il n'est pas influencé par la respiration. C'est pour ça aussi qu'il est utilisé. Et donc, sur certains paramètres, le RMSSD monte, l'application vous dit vous êtes en forme, sauf qu'il y a deux des cinq types de fatigue qui montrent une hypertonie parasympathique. Donc là, à ce moment-là, c'est pas du tout une bonne chose. Et donc, intuitivement, on va vous dire, ah ben, la montre, elle va vous dire, ah ben, tout va bien. Donc, vous, ben, vous allez envoyer, et puis bah, en fait, ça ne va pas bien se passer. Et le deuxième truc, vous allez vous sentir fatigué, et bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oh là, tranquille, je fais de la basse intensité pour récupérer. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait. Il faut plutôt réactiver le système orthosympathique, puisqu'en fait, ça marche en basse communicant. C'est-à-dire que quand un monte, l'autre descend, et quand l'autre monte, redescend.
Ben justement, et qu'on soit bien clair, moi, le HRV et l'utilisation du HRV pour optimiser l'entraînement, j'ai déjà eu beaucoup de preuves que c'était super efficace. Et tu vas prendre le cas justement où il y a besoin de s'activer. Quand il y a la personne, nous c'était Arnaud à l'époque, ou quelqu'un comme toi, quand tu es un vrai expert, il va pouvoir te dire, mais là, mets-lui de la vitesse parce qu'il faut lui réactiver l'ortho, pardon, je vais y arriver. Dans ce cas-là, ça va. Là, ben non, calme un peu parce que sinon, tu vas lui retaper son glycogène et ça va pas aller. Et ça, c'est une vraie expertise qui te permet de monter plus ou moins les curseurs en fait, en disant où là, tu peux continuer sur ce que tu as prévu et monter le curseur parce qu'il est en état de répondre. Là, il faut un petit peu t'adapter et tout. Et c'est un outil qui est super puissant et que moi, je remettrai pas en cause. Ça, c'est sûr et certain. Ce que je remets en cause, c'est les raccourcis qu'on peut faire. Et par contre, ce qui peut être risqué chez les amateurs, c'est de toute façon de vouloir trop jouer sur monter tous les curseurs chez quelqu'un qui bosse à côté. Et dans ce cas-là, jouer aux apprentis sorciers. Enfin, moi, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est qu'ils puissent s'entraîner toutes les semaines, toute l'année. Donc, par exemple, moi, j'ai moins besoin d'aller pointu dans le HRV, en tout cas sur la plupart des gens. Il y en a, je pense, j'en aurais besoin et je vais essayer d'avancer là-dessus. Mais en tout cas, que je le résume bien, c'est un outil qui est super puissant dans l'optimisation, mais qui ne doit pas être pris à la légère.
Bah, en fait, j'ai du mal à me dire que les gens, ils pensent des raccourcis sur la variabilité cardiaque, alors que en fait, dans la performance, c'est multifactoriel. En fait. C'est tout sauf des raccourcis, en fait. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est hyper complexe. Ben, pourquoi ce serait différent sur la variabilité cardiaque, en fait? Ben, comme l'entraînement et la variabilité cardiaque sont liés, ben, la capacité d'améliorer ou de dégrader la variabilité, ben, elle est aussi liée à ce qu'on va faire à l'entraînement, comment on vit, comment on dort, comment on mange, comment on est, quelles sont les émotions, etc. Et ça, c'est vrai que c'est. J'ai du mal à me dire, il faut des raccourcis partout, mais il n'y a pas de raccourci en fait. Il n'y a pas de raccourci. C'est prendre conscience que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, il faut être hyper prudent. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas un outil. Il faut un ensemble d'outils, dont le ressenti de l'athlète en fait partie. Ça, c'est le truc. Et deuxième truc pour aller dans ton sens, moi, j'ai aussi vu des gens avec des variabilités cardiaques catastrophiques avant un championnat du monde. Et devenir champion du monde. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que la variabilité cardiaque ou tout outil de quantification, ce n'est pas eux qui font la perf, hein. C'est l'athlète. C'est-à-dire que la perf, elle ne se résume pas à ce que l'application te dit, tu es en forme ou tu n'es pas en forme, en fait, hein. C'est bien plus complexe que ça, hein. Il y a les paramètres techniques, la gestion de l'effort, la gestion des différentes filières, etc. Enfin, il y a plein de choses autour qui font que. Il y a l'aspect mental qui fait que. Et voilà. Donc, attention, faut être prudent. Moi, première chose que je leur dis aux athlètes, c'est attention, la variabilité cardiaque, elle ne te dit pas si tu vas être bon ou pas. D'accord? Elle est là juste pour, à un moment donné, évaluer des potentielles réponses
Ouais.
à ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, faut être prudent par rapport à ça.
Bah, tu sais, ton corps, il t'envoie comme des signaux. Je vais te donner l'exemple. Moi, il y a un bon mois en arrière, deux nuits de suite, je me suis relevé à 2 heures du mat pour bouffer du sucre. Et là, tu te dis juste, OK, il y a un truc que je suis en train de faire, c'est pas bon. Je m'entraîne trop par rapport à mon état de stress actuel. Bah, écoute, c'est pas grave, tu calmes 3, 4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Après, si j'étais athlète de haut niveau, avec un vrai suivi, la VFC, par contre, aurait pu m'aider, je pense, à anticiper ça. Mais l'enjeu, chez un amateur, c'est pas le même. Mon entraînement a été décalé de 4-5 jours. Je prépare pas les JO, les championnats du monde. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie toujours de relativiser. Par contre, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui a des gros volumes et des gros objectifs, de pouvoir anticiper et que ça se produise pas. Ça, c'est super pertinent, par exemple.
Pour aller encore plus loin, même par rapport à ça, alors moi, ça permet aussi d'essayer de répondre à des problématiques. Parce que des fois, les athlètes, ils ont des représentations. Alors, pour prendre un exemple de quelqu'un qui pensait qu'après son match, fallait qu'elle aille courir parce qu'elle aimait courir et que ça allait la faire récupérer. Donc, on a vérifié comment ça se passait et comment ça évoluait dans le temps, le fait d'aller courir après ses matchs. Et on s'est aperçu que ben, ce n'était pas si évident que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié l'allure à laquelle elle courait. On a vérifié qu'elle était bien en dessous du premier seuil, donc elle ne l'était pas. On lui a demandé de courir en dessous du premier seuil. Et là, on a eu une amélioration, effectivement, qui était bien plus intéressante. Donc, ça permet aussi de recalibrer. C'est-à-dire que le but n'est pas de lui dire, ah ben non, il ne faut pas que tu cours. Mais si elle aime ça, courir, ben qu'elle continue. Par contre, de doser les intensités pour tomber dans ce qui peut être plus intéressant, ça permet de guider. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc qui peut être intéressant, et ça, moi, je travaille avec un ostéo qui bosse dessus, l'ostéopathie fait quand même partie des disciplines d'activation ou désactivation du système ortho et para, où c'est un métier où il maîtrise très très bien ces paramètres-là. Et moi, je sais que je travaille avec lui parce que des fois, il me dit, ben voilà, il y a des gens que je manipule, où ben, on a effectivement, on sent bien que le système ortho ou para s'enclenche ou se déclenche, mais ça ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que les personnes, ils reviennent. Moi, j'arrive à, ça va mieux quand ils viennent me voir, mais dans le temps, rebelote. Donc, moi, en fait, ça veut dire que c'est le problème, il ne vient pas. Moi, je ne peux pas, à long terme, réussir à le faire. Et donc là, souvent, ils me les envoient. Et après, c'est de trouver un mode de vie, entre guillemets, ou une organisation de vie qui permet de rééquilibrer un petit peu le fonctionnement du corps pour le rendre en meilleure santé, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va moins voir l'ostéo, ben, on est plutôt dans le juste. Donc après, c'est des choses, encore une fois, c'est des choses simples. C'est je fais du yoga, ou je fais de la méditation, ou je vais faire du vélo, ou voilà, c'est des choses comme ça, ou je vais nager parce qu'ils aiment nager. Donc, des fois, ça peut être complémentaire à d'autres choses, en fait.
Mais il y a deux trucs, tu vois, par exemple, le yoga, tu vois, c'est toujours pareil, ça dépend des contextes. On va dire, le yoga fait récupérer, ça calme. Moi, tu veux faire du yoga, avec ma grande mobilité et mon truc comme ça, c'est tout sauf une source de récupération. Tu vois ce que je veux dire? Et pour mon voisin, ça en sera une. Et tu as mis le doigt sur un truc, je pense, qui est essentiel, même chez sportifs amateurs, mais même dans le haut niveau, c'est que le HRV, comme tous les autres outils, en fait, ça permet un petit peu d'objectiver la croyance. Et par contre, la croyance, pour moi, en tout cas, c'est pas grave d'avoir une croyance. Parce qu'il y a des gens, leur croyance, elle va accompagner toute leur carrière. En fait, il faut juste arriver à la faire évoluer. Et peut-être que des fois, bah, la croyance va leur permettre d'être plus performants, même si ça me plaît pas, si ça plaît pas à l'entraîneur, etc. Il faut juste arriver à l'intégrer par rapport à ça. Peut-être qu'il va s'en débarrasser ou elle va s'en débarrasser, ou peut-être pas. En fait, c'est pas très grave.
Non, non, effectivement, mais moi je pense que tout entraîneur, on peut demander à tout entraîneur qui a un peu d'expérience. Ils ont tous fait des choses que, en général, il ne faut pas faire et où ils ont eu des bons résultats.
Ouais.
Donc, encore une fois, à ce moment-là, ils pensaient que c'était pertinent de le faire. Ils savaient que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, mais il fallait le faire à ce moment-là et les résultats étaient bons. Donc oui, moi je pense que le but, il n'est pas de changer ce qui va bien. Ce qui va bien chez les athlètes, parce que le problème, c'est que si tu changes tout ce qui va bien et ce que les gens croient, bah, tu vas les mettre en difficulté parce qu'ils vont plus savoir après quoi se rattacher. Non, il faut y aller progressivement. Après d'amener un petit truc qui peut être déclencheur de, bah voilà, ça peut être intéressant. Tu vois, ou des croyances de dire, bah tiens, moi, je fais je fais du polarisé, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup à la mode, je fais du polarisé. Donc, je fais 80% basse intensité, 20% haute ou moyenne intensité. Et puis quand tu regardes leur plan d'entraînement, en fait, dedans, ben, dans la partie basse intensité, ben, ils font du dénivelé, ils font du sprint. Ben, tu leur dis, ben, c'est pas de la basse intensité là, la séance. Ah bon, ben, moi je croyais qu'à partir du moment où il y avait de la basse intensité, c'était bon. Mais en fait, non, dans toutes leurs séances, dans toutes les séances qu'ils font, ben, il y avait de l'intensité. Alors c'est sûr que tu t'appelles Kylian Jornet, tu peux peut-être faire du courir avec du dénivelé sans que tu aies les pulses qui montent au plafond, mais tout le monde n'est pas Kylian Jornet, tu vois.
Non,
C'est
c'est
ça.
vrai.
C'est aussi ça.
Ouais, puis c'est aussi sur les croyances. Pour moi, c'est un positionnement d'entraîneur où quand tu es entraîneur, tu n'es pas là pour avoir raison. Et si l'athlète a une croyance qui ne te plaît pas, tu n'as pas besoin d'aller lui prouver qu'il a tort pour être légitime, en fait. Tu as juste besoin de l'accompagner.
Exactement. Alors après, si tu veux, c'est un peu. Alors nous, on est un peu confrontés à ça un petit peu en natation. C'est le fait de se dire, bah voilà, pour nager vite, il faut faire comme ça. Ouais, mais en fait, il n'y en a pas un qui nage pareil. Tu prends une finale olympique, il n'y en a pas un qui s'y prend pareil. Alors, par contre, ils respectent tous les mêmes principes, mais ils s'y prennent pas de la même façon. Donc, à un moment donné, qui est en capacité, quel entraîneur est en capacité de dire, faut courir comme ça, ou faut nager comme ça, ou faut faire comme ça? Moi, je pense que c'est pas, je pense personne. Je pense personne. Alors après, les principes, biomécanique, physique, tout ça, ok. Tout le monde les respecte. D'accord? Mais le fait de dire bah, faut pour nager vite, faut nager comme ça, bah non. Moi, il y a une fois, quelqu'un m'a dit bah, Laure Manaudou, elle nage mal. Si elle nageait bien, elle nagerait vite. Ouais, mais en fait, elle est déjà championne du monde, championne olympique et record woman du monde. En fait, c'est la meilleure et tu es en train de me dire elle nage mal. Non, c'est pas elle nage mal, c'est pas ta référence à toi. Mais c'est pas elle nage mal, c'est la meilleure. On ne peut pas dire qu'elle nage mal, c'est la meilleure. Tu vois, tu peux prendre n'importe quel exemple, quelqu'un qui ne fait pas comme les autres, bah, tu vas me dire, je ne sais plus quel coureur faisait du marathon, qui avait été champion olympique, qui avait les pieds qui, je ne sais pas comment il se positionnait, tu vois, et on lui a dit, ah ben non, mais il ne court pas bien, il ne devrait pas avoir son pied posé comme ça, il va se blesser. Ah ouais, mais si le mec, ça fait 20 ans qu'il court comme ça, et que son corps est adapté, et que c'est le meilleur, en fait, tu prends le risque de changer, de le blesser et qu'il soit moins bon. Donc, je vois pas quel intérêt, tu vois.
Il y avait eu le cas en ski de fond, Hervé Ballon, qui est vice-champion du monde en 92, tout le monde disait qu'il skiait mal. Et quand tu es vice-champion du monde, il skiait juste de la manière dont son corps s'organisait et qui était efficiente pour lui. Il ne faut pas chercher plus loin. Et je trouve que tu as bien résumé le truc, c'est que tout le monde respecte les mêmes fondamentaux, mais s'organise de manière différente. Et ça,
Exactement.
c'est lié sur plein de trucs. Et pour conclure un petit peu et revenir. Bah, pas que sur la VFC, parce que c'est vraiment en lien à l'entraînement, mais quel conseil un peu tu pourrais donner aux gens, est-ce qu'ils doivent, dans quel contexte il devrait utiliser la VFC, s'il veut l'utiliser, comment s'y prendre, et en quoi ça peut l'aider, et quelles précautions prendre.
Alors, déjà, ce que je veux dire, ça n'a d'intérêt que s'il y a un suivi derrière. C'est-à-dire que quand je te dis un suivi, c'est un suivi longitudinal. C'est-à-dire, si c'est juste pour dire, je fais un test deux mois, je fais un test une fois par jour pendant deux mois et c'est tout, je ne vois pas forcément l'intérêt. D'accord ? Deuxième truc, ça peut. Alors, on peut imaginer des suivis à une fois, deux fois par semaine, toutes les semaines. Ça peut être des suivis un peu plus intenses au moment où on monte en altitude pour voir comment ça se passe, voir si on s'est adapté au jet lag, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. D'accord ? Ça, après, c'est tout dépend, mais il faut qu'il y ait un vrai suivi et dans les conditions identiques. D'accord ? Deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit fait avec des outils de mesure de l'activité électrique du cœur. Aujourd'hui, on n'a pas les mesures autres pour le faire que ça. D'accord ? Et y a des marques de ceinture qui ne coûtent pas super cher, hein, qui coûtent à peu près 70 balles. Hein, si tu peux les trouver, ce n'est pas super cher par rapport à ce que ça peut trouver, mais vraiment investir dans un outil comme ça. Et puis surtout, y a des process, en fait. Le process, c'est tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes parce qu'il faut que tu aies la vessie vide. Et puis après, tu fais ton test. Par expérience, la contrainte la plus importante des athlètes, c'est le test debout. Parce que rester 5 minutes debout, ça peut être fatigant. Alors, c'est debout, sans piétiner, en respirant normalement. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des athlètes qui piétinent, d'avoir des athlètes qui font autre chose en même temps, qui s'habillent, qui se brossent les dents. Et donc, alors là,
qui prennent le téléphone.
Qui prennent le téléphone ou qui lisent ou qui écoutent de la musique. Hein, mais tout ça, c'est des paramètres qui peuvent influencer. Donc, il faut vraiment être hyper rigoureux. Il faut vraiment être hyper rigoureux. Et puis, c'est mieux, effectivement, quand on a un suivi, de commencer par une dizaine de tests non fatigue pour avoir un profil. Et se baser par rapport à ça. D'accord ? Mais les raccourcis avec des indicateurs, moi, je déconseille. Et comme tu l'as dit au début, la fréquence cardiaque, ça me va très bien, moi. Moi, je ne fais pratiquement jamais de variabilité cardiaque sur moi. Par contre, je connais très, très bien ma fréquence cardiaque de repos au lever et je connais très, très bien la descente de fréquence cardiaque sur deux minutes après une séance de sport. Et ça, je sais très bien comment ça fluctue. Alors, encore une fois, moi, c'est moi. D'autres athlètes, ça sera peut-être différent. Voilà. Mais moi, je sais que sur moi, ça fonctionne plutôt bien. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a certains indicateurs, parce qu'aujourd'hui, tu parlais d'entraînement, mais aujourd'hui, on peut arriver à déterminer les seuils, et notamment le SV1, voire le SV2, avec un indicateur de variabilité cardiaque qu'on appelle le DFA alpha 1.
Ouais.
Sauf que, il y a des athlètes qui sont bons répondeurs à ça et d'autres qui ne le sont pas. Et entre une mesure en courant où tu as des chocs et une mesure en vélo où c'est plutôt linéaire et qu'il n'y a pas trop de chocs, c'est déjà pas pareil. Si tu es nageur, ça pose encore des problèmes de connectivité. D'accord ?
Ouais.
Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, il y a des outils simples, ERPE, le hopper, la fréquence cardiaque de repos, des choses simples. Après, effectivement, si tu es tout le temps blessé à la fin de ta saison, que tu n'arrives jamais à finir tes objectifs, que systématiquement tu es malade, il faut te poser des questions quand même. D'accord ? Et la variabilité peut t'aider à répondre à des problématiques d'organisation d'entraînement, d'organisation de vie. Mais encore une fois, moi, mon avis, c'est l'environnement impacte plus en termes de fatigue que l'entraînement. Donc, quelqu'un qui est dans un environnement où il bosse beaucoup au boulot, il est hyper stressé, forcément, il ne va pas bien dormir. Si en plus, il fait des séances d'intensité, alors là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Il y a Nouchka Simic, dans un podcast, elle disait, il y a rarement du surentraînement, mais plutôt de la sous-récupération. Et oui, c'était assez juste.
Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et souvent, les erreurs, c'est les erreurs, on récupère, on ne fait rien. Et c'est Stéphane Morin qui en parle très bien, hein, qui dit qu'il y a beaucoup plus de blessures en sous-entraînement qu'en surentraînement. Parce qu'en fait, on passe de rien à beaucoup. Ben, peut-être mieux qu'on ne passe pas à rien. Peut-être qu'il faudrait qu'on garde plutôt un volume constant et qu'on joue à l'intérieur de ce volume constant plutôt que de dire ben, je fais des semaines à 100 bornes et des semaines à 20 bornes. Parce que quand on reprend sur 100, eh ben derrière, la progressivité, elle n'existe plus. Encore une fois, la progressivité, un des principes d'entraînement. Donc, on ne respecte plus les principes de l'entraînement.
La
Donc,
continuité.
ouais, la continuité, toutes ces choses-là, tu vois.
Sais, j'ai eu le cas chez un très bon coureur que j'ai là. On a discuté. L'an passé, on avait fait des systèmes de blocs. Parce que c'est pas des week-end shocks, mais les histoires de blocs, ça lui a plutôt bien réussi. Dans le contexte de l'an passé, on avait prévu en début d'année, quand on se revoit, de refaire ces systèmes-là. Il me fait, bah, écoute, ça a bien marché. Bon, première méfiance, comme tu dis, ce qui a bien marché, ça marche pas tout le temps, mais ça aurait
C'est
pu
ça.
marcher. Et là, il y a 3 semaines, on avait prévu de refaire un bloc, sauf qu'il vient de taper son PR sur semi il n'y a pas longtemps. Pour un Jurassien au mois de mars, c'est plutôt bien, tu vois, vu les météos qu'on a. Et il me dit, mais écoute, Nico, là, moi, en ce moment, je cours à peu près 100 bornes toutes les semaines. J'ai plus besoin de faire ça. Je peux refaire de blocs. Je veux qu'on garde ce truc-là. Et bien, côté coach, je lui dis pas, ben non, je t'ai prévu des blocs, je vais te les foutre dans la gueule. Il a raison, en fait. Et en fait, toi, les blocs et les périodes de forte charge, elles servent pour moi aux athlètes qui ont des contextes où ils ne peuvent pas forcément être réguliers, etc. Donc, faut bien les anticiper, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, faut les préparer, je suis d'accord avec toi, faut les préparer.
C'est pas que c'est inutile, mais c'est pas indispensable dans tous les cas. Et tu vois, je ferai un cas pratique. L'année dernière, sur son cas, je dirais, ben, on a fait des blocs, ça a super bien marché. Puis je te dirais, ben, cette année, on n'en a pas fait. Alors, je ne sais pas encore si ça va marcher ou pas. Je pense que ça va marcher, tu vois. C'est vraiment de l'adaptation et de l'écoute du sportif aussi.
Oui, c'est toujours. Ben, et puis, il y a. C'est Sean qui disait, Sean Seal qui disait que ben, la meilleure sollicitation, c'est celle que tu n'as jamais faite. Mais oui, c'est une réalité. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention de ne pas en faire trop. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est ça. Après, il y a aussi, si tu veux, on parle beaucoup de charge d'entraînement, de volume, d'intensité. Mais l'adhésion de l'athlète, il est essentiel, en fait. C'est-à-dire que ça, tu vois, moi, ça, c'est un paramètre. Quand j'ai commencé d'entraîner, j'avais du mal à le comprendre, ça. Mais en fait, tu peux faire ce que tu veux, même si c'est super bien ce que tu fais. Si l'athlète, il adhère pas à ce que tu lui proposes, ça marchera pas. Et donc, c'est essentiel, ça. Maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est comment on fait pour l'adhérer. Et des fois, ben, on est obligé de commencer par des choses où on n'est peut-être pas en adéquation avec ce qu'il faudrait faire, mais peut-être que ça passe par là pour arriver à le rendre efficace après plus tard et à le faire adhérer à notre système d'entraînement.
Et tu vois, c'est le dialogue et le plus dur, ça. Chez les sportifs qui sont, même amateurs, qui ne sont pas blessés ou tout va bien, c'est plus facile à prendre en compte l'adhésion. Moi, des fois, j'ai commencé là dernièrement à bosser. C'est une collaboration qui est très, très récente avec des athlètes qui revenaient de blessures. Bon, une VMA courte, une VMA longue et un fartlek par semaine, de toute façon, c'est compliqué que ça se termine pas autrement pour moi. Et là, par
Ouais,
contre,
je suis d'accord.
Et là, en ayant commencé à courir il y a 2 ans, ce qui n'est pas de sa faute, hein, d'ailleurs, c'est en club, mais n'empêche que, et je comprends la fille avec qui on discute, hein, je la citerai pas, moi je lui dis, mais ce que tu as fait, ça t'a amené à te blesser, du coup, j'ai presque un côté dictateur, je dis non, c'est maintenant tu m'écoutes, on fait comme ça, et bien sûr que j'aimerais bien dans 2 mois dire, ben, on reprend la marge de manœuvre, etc. Mais des fois, l'adhésion. Il faut trouver le compromis entre être un petit peu
C'est
dictateur et
ça.
dire c'est comme ça que ça se passe,
Ouais.
fais-moi confiance. Je ne sais pas si j'ai raison, mais fais-moi confiance et on verra. Mais bien sûr, et quand je le dis, moi, c'est avec beaucoup de bienveillance, hein, que ça allait forcément se finir comme ça, c'est malheureux. Mais il y a des cas aussi où quand tu es coach, tu vas te planter. Mais n'empêche que si l'athlète a l'adhésion, tu dis, bon, ok, on a prévu de faire ça ensemble, la merde, j'ai pas pris ça en compte, désolé, bah, écoute, on fera mieux la fois d'après. Toi, c'est important, ça aussi.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'après, on rentre dans la tête des gens, c'est plus je fais d'intensité, plus je vais vite. Et en fait,
Elles sont en
non.
train de changer grâce au
C'est
boulot de
pas.
jeunes, entre autres, mais.
Ouais. Ça change un peu plus. Mais alors après, on tombe aussi dans l'inverse. Alors maintenant, on ne fait plus d'intensité du tout. D'accord? On ne fait que de la basse intensité. Mais en fait, chaque chose a sa place. Tu vois, et encore une fois, chaque athlète a une capacité à faire de l'intensité qui lui est propre. Avec son vécu, avec ce qu'il a déjà fait avant, avec son physique, avec ses conditions physiques, etc. Et voilà. Et tu vois, là, j'ai récupéré quelqu'un qui était souvent, enfin, souvent les fins de saison, il avait du mal. Et puis, bah, là, il me dit, bah, en fait, je suis jamais mort dans tes semaines d'entraînement. Bah, je dis, ouais, et alors? Bah, en fait, j'ai jamais couru aussi vite. Bon, bah, voilà. J'écoute, Voilà. Et puis d'autres qui effectivement, ils sont arrivés, bah, quand tu regardes les plans d'entraînement, c'est ce que tu disais. Dedans, bah, il n'y a jamais de séance de basse intensité. Alors ouais, ils se font plaisir jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout pète. Et là, quand ça pète pas, c'est pas une petite tendinite. Hein.
Non. Mais après, de toute façon, la basse intensité, on pourrait y revenir. Moi, en tant que coach d'endurance, forcément que c'est un modèle qui est 80-20, un peu de choses près, de manière très, très, très schématique. Mais demain, un crossfitter ou un handballeur ou une handballeuse, si tu le fais vers 80% de zone 2, je suis pas convaincu qu'elle soit prête pour les efforts du match, tu vois.
Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais après, il y a un autre truc aussi qui est intéressant, et je pense que ça peut être appliqué dans d'autres disciplines, c'est souvent, dans la tête des gens, c'est basse intensité, ça veut dire je fais rien. Mais c'est pas je fais rien. On peut inclure des aspects techniques dans le travail de basse intensité. Alors, je dis technique, ça peut être technique de course. Nous, en natation, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de travail technique, parce que souvent, les nageurs, ben, ils nagent basse intensité. Donc, ça veut dire on branle rien. Ben non, mais c'est pas ça. C'est A, basse intensité, on applique des résistances les plus faibles possibles, des propulsions les meilleures possibles, sans dépasser ce seuil. Tu vois, donc en fait, tu travailles sur le rendement, donc tu rends ton intensité active et intéressante. Tu vois, et pas dans la tête des gens, c'est « ouais, mais je branle rien ». Mais en fait, si tu fais que courir à basse intensité, la coordination de la course à basse intensité, elle n'est pas la même que ton allure de course. Et donc, à un moment donné, c'est chaque intensité a une coordination différente. Donc, c'est important d'aller chercher l'ensemble des coordinations sur l'ensemble des intensités. C'est Sébastien Rattel qui en parle très bien sur le fait de travailler sur l'ensemble des intensités pour développer des compétences de coordination à l'ensemble du spectre. Plus on a des coordinations différentes, plus on est capable de s'adapter à l'effort. Quand tu fais, toi, tu fais du trail, mais quand tu cours sur du plat en descente ou en montée, en fonction de l'angulation, tu n'as jamais les mêmes coordinations. Donc, c'est ta capacité à t'adapter qui va faire que tu vas être efficient. Et voilà, donc, c'est pas l'un ou l'autre, en fait. C'est comment tu distribues à l'intérieur ces choses-là.
Ouais. Je dis mouais, mais je dis ouais, un grand oui, hein, tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment oui, d'accord, oui, j'étais en pleine réflexion, justement. Bah écoute, Sylvain, franchement, c'était génial parce que on a quand même mis les choses au clair sur la VFC. On a quand même parlé d'entraînement et on a parlé d'humain. Alors, moi, c'est les choses simples, l'entraînement et l'humain, c'est ce qui me plaît. Donc, franchement, je suis vraiment content. Bah, j'espère que tu as pris du plaisir aussi, je pense. Oui,
beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. Ouais.
Eh ben, c'est nickel. Eh ben, du coup, au revoir à tout le monde et merci à toi.
Merci.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.